Tu dis que tu aurais pris un taxi pour le Boston Daily, tout seul? Tu serais entré dans les bureaux sans pièce d'identité et personne n'aurait tenté de t'arrêter. Mon client a déjà répondu à cette question, intervint l'avocate d'Ethan Hastings avant que son client de 13 ans puisse ouvrir la bouche. Avançons, commandant. Didi se trouvait dans la salle de conférence de la police de Boston. Miller à sa droite, le commissaire divisionnaire de la brigade criminelle à sa gauche. En face d'elle, Ethan Hastings, ses parents, et un requin du barreau de Boston, Sarah Joss. 2 semaines après le malencontreux assassinat de Wayne Reynolds sur le parking du laboratoire, les Hastings avaient enfin accordé à la police de Boston une entrevue avec leur fils. Étant donné leur choix en matière d'avocat, ils ne voulaient prendre aucun risque. « Écoute, Ethan, insista Didi. Ton oncle m'a expliqué au téléphone que vous aviez localisé l'ordinateur des Jones dans les bureaux du Boston Daily. » Et ensuite, d'un seul coup, après avoir erré dans les locaux pendant 3 heures, tu as changé d'avis. Quelqu'un a modifié les protocoles de sécurité, expliqua Ethan. Je vous l'ai déjà dit, j'avais envoyé un virus, un antivirus plus récent l'a supprimé, enfin j'imagine. Mais l'ordinateur se trouve toujours là-bas. C'est forcément l'un d'entre eux. Le garçon haussa les épaules. C'est votre problème, pas le mien. Vous devriez peut-être embaucher une meilleure équipe. Didi serra les poings sous la table. Meilleure équipe, tu parles. Ils avaient des caméras de surveillance qui montraient Ethan entrant dans les bureaux du Boston Daily peu après 23h30, apparemment déposé par un taxi qu'il avait appelé avec l'iPhone de sa mère. Pendant que Didi et toute la police de Boston se précipitaient au laboratoire de la police d'État, puis sur les lieux du meurtre d'Aidan Brewster, et enfin chez les Jones pour y découvrir Sandra Jones ainsi que son père et son mari blessés, Ethan n'était pas resté inactif dans les bureaux du Boston Daily. Plusieurs journalistes présents à cette heure tardive se souvenaient l'y avoir vu, mais tous étaient trop occupés à tenir leur délai pour faire attention à un gosse. Ils avaient supposé qu'il était avec quelqu'un qui travaillait tard, voilà tout. Ils avaient vaqué à leurs articles et Ethan Hastings avait clairement trafiqué quelque chose avec l'ordinateur des Jones, qui, autant qu'on pouvait en juger, n'existait plus. Didi essaya. Nous savons que ton oncle avait une relation avec Madame Sandra. Il n'y a rien d'illégal à ce que deux adultes se fréquentent, Ethan. Tu n'as pas besoin de le protéger. Ethan resta muet. En revanche, ton oncle a laissé entendre que Jason Jones s'était peut-être servi de l'ordinateur pour se livrer à diverses activités illicites. Ça nous inquiète beaucoup. Alors il faut qu'on retrouve cet ordinateur, et je suis pratiquement sûre que tu pourrais nous aider. Ethan la regarda sans ciller. Didi fit encore une tentative. Souviens-toi de ce que tu disais, Ethan. Jason n'est pas un bon mari. Il rendait Madame Sandra malheureuse. Laisse-nous faire notre boulot et on pourra peut-être y remédier. C'était une manœuvre retorse, mais Didi ne savait plus à quel saint se vouer ces jours-ci. 2 semaines après l'une des nuits les plus sanglantes de l'histoire de la police de Boston, elle avait 3 cadavres sur les bras et personne à arrêter. Une situation contre nature pour elle. Sandra Jones prétendait qu'elle avait disparu pour échapper à une liaison qui tournait au vinaigre avec Wayne Reynolds. Malheureusement, la médiatisation de l'affaire avait attiré dans les parages le père, avec lequel elle était brouillée. Celui-ci avait tué sa mère 8 ans plus tôt, puis abusé sexuellement de Sandra jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte à l'âge de 16 ans. Elle avait mis un terme à cette grossesse par un avortement, après quoi elle n'avait plus dormi chez elle la nuit. La police avait retrouvé dans la chambre d'hôtel de Maxwell Black des éléments qui l'impliquaient dans le meurtre d'Aidan Brewster, ainsi que du matériel explosif correspondant à ce qui avait été utilisé pour la voiture de Wayne. D'après Sandra, son père avait reconnu avoir tué ces 2 hommes dans le but de faire accuser Jason. Maxwell avait ainsi espéré conduire enfin la police à arrêter Jason, ce qui lui aurait ouvert la voie à l'obtention de la garde exclusive de sa petite fille, laquelle serait sans doute devenue sa prochaine victime. Seulement voilà, lorsqu'il s'était introduit chez les Jones pour tendre un piège à son gendre, il s'était retrouvé nez à nez avec sa fille, saine et sauve. Il avait agressé Jason avant que Sandra ne réussisse à lui arracher le pistolet et à l'en croire qu'elle ne lui tire dessus en situation de légitime défense. Maxwell Black était mort. Jason Jones était récemment sorti de son état critique à l'hôpital de Boston. D'après Sandra Jones, celle-ci regrettait profondément les dégâts engendrés par sa disparition irréfléchie. Mais elle était revenue, son mari n'avait jamais touché à un seul de ses cheveux, et à présent, ils pouvaient tous reprendre le cours de leur vie. Toute cette histoire hérissait Didi. Sandra était désolée. Allez donc expliquer ça à Aidan Brewster, qui avait purement et simplement été exécuté parce qu'il faisait un bouc émissaire pratique. ou à Wayne Reynolds, qui n'était peut-être pas irréprochable dans sa vie personnelle, mais qui, jusqu'à l'heure de sa mort, maintenait que, de son point de vue d'expert, Jason Jones se livrait à des activités malhonnêtes sur Internet. Et puis il y avait Ethan Hastings, qui avait disparu pendant près de 4 heures au cours de la nuit en question, mais qui prétendait n'avoir aucune idée de ce qu'était devenu l'ordinateur des Jones. À noter que Didi avait réussi à obtenir un mandat de perquisition de tous les ordinateurs du Boston Daily pour déterminer s'ils appartenaient au journal ou un particulier. Les agents avaient procédé à un examen méthodique à l'aide des numéros de série conservés par le journal. L'ordinateur des Jones n'était pas dans les bureaux. Il s'était envolé, comme ça. Ethan Hastings avait trafiqué quelque chose, aucun doute dans l'esprit de Didi. Malheureusement, le petit génie se montrait un dur à cuire. « C'est fini ?» demanda le père. « Nous sommes de bonne foi et j'ai l'impression que mon fils ne peut rien vous apprendre de plus. Si vous n'arrivez pas à retrouver l'ordinateur dont vous avez besoin pour votre enquête, c'est votre problème, pas le nôtre. » « Sauf si votre fils a tripatouillé une pièce à conviction. » « Maugréa, Didi. » Le commissaire divisionnaire leva une main pour demander le silence. Il la regarda avec une expression qu'elle connaissait bien. En termes policiers, cela signifiait « c'est le moment d'abattre une carte ou de passer la main ». Elle n'avait pas de carte à abattre. Merde. « C'est fini, » annonça-t-elle sur un ton sec. « Merci de votre coopération. Nous vous contacterons si nous avons besoin d'autre chose. » Comprendre quand les poules auront des dents. Le clan Hastings sortit et Ethan lança un regard torve à Didi en franchissant la porte. « Il a fait quelque chose, » dit-elle entre ses dents à son supérieur. Très probablement, mais il est aussi encore amoureux de son enseignante, tant qu'il aura le sentiment de protéger cette pauvre Madame Sandra, qui a fait tuer son oncle, qui s'est fait agresser par l'oncle en question, du moins d'après elle. Didi soupira. Ils avaient saisi l'ordinateur de Wayne et les techniciens avaient récupéré bon nombre de courriels échangés entre l'informaticien et la belle enseignante. Aucune preuve irréfutable en soi, mais un courrier plus volumineux qu'on ne s'y attendait dans le cadre d'une relation purement platonique. Et conformément à ce qu'elle affirmait, Sandra avait cessé d'envoyer des messages 5 jours avant sa disparition, alors que l'ordinateur de Wayne montrait qu'il lui avait envoyé des dizaines de messages instantanés pour essayer d'attirer son attention. « J'ai envie d'arrêter quelqu'un, » marmonna Didi. Jason Jones, de préférence. Pourquoi lui? Je ne sais pas, mais un type aussi calme et posé a des cadavres dans le placard. Vous pensiez la même chose pour Aidan Brewster? Lui rappela amicalement son supérieur. Et pour finir, il n'avait rien à voir dans cette histoire. Didi soupira. Je sais. Et quand je vois ça, je me demande comment on est censé savoir qui sont les vrais monstres de nos jours. Mon mari est rentré de l'hôpital aujourd'hui. Lui lui avait préparé une énorme banderole. Il lui avait fallu 3 jours pour la fabriquer, recouvrir le papier boucherie blanc d'images d'arc-en-ciel, de papillons et de 3 bonhommes bâtons souriants. Elle avait même mis un chat orange avec 6 immenses poils de moustache. « Bienvenue, papa », disait la banderole. Nous l'avons accroché dans le salon, au-dessus du canapé vert où Jason devrait passer sa convalescence dans les prochaines semaines. Lui a installé son sac de couchage à côté du canapé. Je me suis moi-même fait un petit nid avec des oreillers et des couvertures. Nous avons campé pendant 4 jours. Petit trio hagard qui avait besoin de voir les visages les uns des autres le matin au réveil. Le 5e jour, Rhi a décrété qu'elle avait assez campé et elle est remontée dans sa chambre. Tout naturellement, nous avons repris le cours de nos vies. Rhi est retournée à la maternelle. J'ai fini l'année au collège. Jason a accepté quelques piges pour différents magazines pendant que ses côtes finissaient de se ressouder et que son ventre guérissait. Il a bien fallu que la presse nous lance des flèches assassines. On m'a présentée comme une Hélène de Boston, une femme dont la beauté avait engendré une immense tragédie. Je ne suis pas d'accord. Hélène a déclenché une guerre, moi j'en ai arrêté une. La police a continué à fureter. La perte de notre ordinateur les tracassait et je voyais bien à l'expression du commandant Warren que pour elle, l'affaire n'était pas close. J'ai dû passer au détecteur de mensonges et j'ai dit la stricte vérité. Je n'avais aucune idée de ce qu'était devenu notre disque dur. Les locaux du Boston Daily? Le rôle qu'avait pu jouer Ethan, c'était un mystère pour moi. Je n'avais pas déplacé l'ordinateur et j'avais encore moins donné des consignes à Ethan. J'ai vu que Jason s'attendait à être mis en état d'arrestation à la seconde où il reviendrait à la maison. Quand on sonnait à la porte, il se crispait sur le canapé, se préparait à ce qu'il jugeait inéluctable. Il s'est passé des semaines avant qu'il ait enfin l'air de se détendre. Mais alors je le surprenais à me regarder d'un air songeur. Il n'a pas posé les questions évidentes. Je n'ai pas spontanément fourni les réponses. Malgré notre toute nouvelle proximité, nous formons un couple qui connaît la valeur du silence. Mon mari est un homme très intelligent. Je suis sûre qu'il a tiré certaines conclusions à l'heure qu'il est. Notamment sur le fait que j'ai fui Wayne Reynolds le mercredi soir et que celui-ci a comme par hasard été réduit en charpie le soir même où j'ai rejoint ma famille. Ou que mon père ait avoué le meurtre d'Aidan Brewster, mais pas prononcé le nom de Wayne. Curieux quand on songe que tout le nécessaire pour fabriquer une bombe a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Cela dit, n'importe qui peut trouver comment faire sauter une voiture de nos jours. Il suffit d'une recherche sur Internet. Aucun doute que ceci a amené mon mari à tirer encore d'autres conclusions. Notamment sur les raisons qui auraient pu pousser Ethan à se mettre brusquement en quête de notre ordinateur. Et qui plus est, à prendre le risque de trafiquer le dit ordinateur dans un lieu public. Il se souciait certainement fort peu que le disque dur contienne suffisamment de preuves accablantes pour envoyer Jason derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. En revanche, la véritable portée de plusieurs visites sur des sites internet lui était sans doute apparue lorsqu'il avait appris l'explosion de la voiture de son oncle. Son cheval de Troie lui avait permis de suivre mes activités autant que celles de Jason. Et disons qu'il vaut mieux passer sous silence toute l'étendue de mes recherches sur Internet ce fameux mercredi soir. J'en ai jamais parlé à Ethan. Et cela n'arrivera pas. Ses parents ont exclu tout contact entre nous et inscrit Ethan dans une école privée. Par égard pour Ethan, j'ai respecté leurs souhaits. Il m'a rendu ma famille et je lui en serai toujours redevable. Je sais que Jason s'inquiète pour moi. Je me demande s'il a saisi l'ironie de la situation. Mon père assassinait le prétendant numéro 1 pour faire accuser mon mari, pendant que j'assassinais le prétendant numéro 2 pour faire accuser mon père. Tel père, telle fille, les grands esprits se rencontrent. Peut-être que j'ai simplement appris une précieuse leçon de mon mari. On peut choisir entre être la proie ou le chasseur. Wayne Reynolds menaçait ma famille. Dès lors, son sort était scellé. Je vais vous dire la vérité. Je ne rêve plus de sang, de roses fanées ou du rire suraigu de ma mère. Je ne me réveille pas avec dans les oreilles les derniers mots de mon père ou devant les yeux l'image de mon quasi-amant se désintégrant dans une gigantesque boule de feu. Je ne rêve pas de mes parents, ni de Wayne, ni d'hommes anonymes qui pilonneraient mon corps. C'est l'été. Ma fille court entre les arrosages dans son maillot de bain rose préféré. Mon mari sourit en la regardant, et je paraisse dans le hamac, une main posée sur la courbe douce de mon ventre arrondi. Je sens grandir le nouveau membre de notre famille. Il fut un temps où j'étais la fille de ma mère. Aujourd'hui, je suis la mère de ma fille. Alors je dors bien la nuit, blottie entre les bras solides de mon mari, rassurée de savoir que ma fille est bien à l'abri dans la chambre voisine, Mr. Smith roulé en boule à ses pieds. Je rêve du premier jour de Rhee à la maternelle. Je rêve du premier sourire de mon nouveau-né. Je rêve que je danse avec mon mari pour notre 50e anniversaire de mariage. Je suis une épouse et une mère. Je rêve de ma famille.